Place Tahrir, hiver 2011, révolution égyptienne. En première ligne, face à la police organisée, les ultras des clubs du Caire.
Mi-avril, 9 footballeurs algériens, dont Rachid Metloufi, quittent clandestinement la France, renonçant à sa carrière, à la gloire, à l'argent. Il a répondu à l'appel du FLN.
Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez Terrain Miné, le podcast qui retrace l'histoire du football dans les différents conflits mondiaux. Je suis Léo Roussel et aujourd'hui je vous propose un nouveau saut dans le passé, le temps d'un nouvel épisode.
Ivoirien. Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez toutes les armes.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Terrain Miné. Après plusieurs semaines d'absence, je suis ravi de vous retrouver pour un troisième podcast mêlant football et conflits dans le monde. Vous n'avez sûrement pas coupé à cette information, ces derniers jours, l'Angleterre est en finale de l'Euro et affrontera l'Italie ce dimanche 11 juin. Alors oui, aujourd'hui on va parler de l'Angleterre, mais non, on ne parlera pas de l'Euro. Pour ce troisième podcast, je vous propose de poursuivre sur la lancée de l'épisode 2 de Terrain Miné, dans lequel nous nous étions plongés en pleine Première Guerre mondiale. Rappelez-vous, nous avions évoqué les prémices du football féminin pendant la Grande Guerre, à l'arrière, pendant que les hommes étaient au front. Eh bien cette fois-ci, on va s'y rendre, sur le front. Nous allons nous projeter directement dans les tranchées, aux côtés de soldats de la Triple Entente, ceux du Royaume-Uni en l'occurrence, aussi surnommés les Tommies. Et on va voir que les Anglais, en débarquant en France pour lutter contre les Allemands notamment, ont non seulement ramené des hommes, mais aussi leur passion pour le football. Le ballon rond a occupé une place très importante pour les soldats britanniques dans la guerre, et ce, dès leur engagement dans l'armée. Aujourd'hui, on va notamment revenir sur l'histoire d'un bataillon particulier venu combattre en France, uniquement composé de footballeurs. Surnommé à juste titre « bataillon du football », il symbolise à lui seul l'utilisation du football à des fins militaires par l'état-major britannique. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui Arnaud Vaquet, un spécialiste du sujet, si ce n'est le spécialiste français du sujet, enseignant-chercheur, maître de conférence à l'université de Lille à la faculté des sciences et du sport. Il a travaillé à de nombreuses reprises sur le sujet des Tommies et sur leur arrivée en France avec des ballons de foot. Bonjour Arnaud, comment allez-vous ?
Bonjour, eh bien écoutez, ça va plutôt bien, ravi de partager ma passion de l'histoire du sport aujourd'hui avec vous.
Arnaud, vous vous êtes intéressé au rôle du football dans l'engagement des Britanniques dans la Grande Guerre. Pour commencer, quel est l'état du développement du football en Angleterre en 1914, au début de la guerre ?
L'état du développement du football en Grande-Bretagne avant la Première Guerre mondiale est déjà celui que l'on pourrait presque connaître aujourd'hui, à savoir un football extrêmement développé, professionnalisé, présent à la fois dans les institutions scolaires, militaires et dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que le football qui s'est professionnalisé à partir des années 1880 et qui va donc créer la Premier League, la FA Cup et après aussi l'ensemble de ce développement footballistique que l'on va connaître dans la société en général, avec ces grands clubs que l'on connaît encore aujourd'hui, eh bien, va véritablement expliquer la différence qu'il va y avoir avec la France, un pays où le football est encore naissant et où la finale du Trophée de France en 1914, qui verra la victoire de l'Olympique Lillois, ne sera finalement suivi que par 3000 spectateurs. C'est-à-dire qu'on a d'un seul coup, on a d'un côté 100 000 spectateurs pour vivre les finales de FA Cup, avec une économie derrière, puisque c'est professionnel, avec des paris sportifs, avec tout ce système à la fois de médiatisation, bien entendu, qui passe par essentiellement la presse papier, mais finalement tous les codes du sport professionnel et du fait qu'il y a une économie, une monétisation, un spectacle, une ferveur footballistique existe déjà avant la Première Guerre mondiale en Angleterre.
D'accord. Alors, à quel moment le Royaume-Uni va-t-il entrer en guerre ?
Tout de suite, puisque dès le mois d'août 1914, l'Angleterre est aux côtés de la France, puisqu'il y a cette entente cordiale qui est activée. Mais le finalement, l'importance derrière, en relation entre l'entrée en guerre et la représentation aussi que derrière on va en avoir de ces soldats sportifs qui vont débarquer, véritablement, c'est un débarquement en France, arrivera peut-être quelques semaines plus tard, même si on constate vraiment, dès les premiers jours de guerre, une différence de culture, puisque si les Tommies, donc les soldats britanniques, viennent avec leurs canons, ils viendront aussi avec leurs ballons, ce qui va donc nous permettre très rapidement de constater une différence énorme entre le soldat français, soldat obéissant français, qui a appris à se battre en ligne, dans cette tradition des batailles en ligne napoléoniennes. Et donc on aura formé, grâce à l'instruction physique et à la gymnastique conscriptive française, on aura formé des soldats et des hommes capables d'obéir, mais non pas de combattre, car rapidement, le soldat sportif anglais et le modèle d'un soldat sportif préparé par le sport va s'imposer, car on est dans une guerre qui verra non pas le combat en ligne s'imposer, mais le combat immobile dans la tranchée, avec des armes de destruction massive. Et c'est bien l'introduction de ces armes de destruction massive qui va reconfigurer les stratégies militaires et qui va donc faire appel à un nouveau soldat, à un soldat moderne, à un soldat sportif, doté de sens tactique, de capacité physique, d'entraide et de camaraderie, puisque finalement le football n'est qu'un outil au service de la victoire militaire.
Alors, au début de la guerre, les citoyens ne sont pas obligés de s'engager dans l'armée britannique. Il n'y a pas de conscription ou d'appel à la mobilisation nationale, contrairement à la France. On s'imagine que les footballeurs britanniques, dont certains jouissent déjà d'un statut de professionnel, n'ont pas grand intérêt à s'engager. Comment les joueurs professionnels vivent ce début de guerre et comment est perçu leur engagement par le reste de la population ?
Pour les professionnels footballeurs, finalement, au début de la guerre, eh bien, on continue son métier de footballeur, ce qui est quelque chose qui n'existe pas en France. C'est-à-dire que la professionnalisation en France, c'est en 1932, donc on a encore... C'est difficile à comprendre qu'on arrive en se disant « Tiens, c'est mon métier, donc bah non, j'ai mon métier, je vais le faire, et comme de toute façon, je ne suis pas obligé d'aller à la guerre, eh bien, c'est un choix. » Mais au début, les footballeurs britanniques sont protégés tout simplement parce que ce sont des salariés. Ils s'engagent ou pas en fonction de leurs idéaux et de leur volonté de s'engager. Les championnats vont donc continuer. Maintenant, la pression sociale viendra aussi leur demander s'ils sont des hommes. Est-ce que vous êtes un homme si vous continuez à shooter dans un ballon et donc à éviter les balles ? Alors que d'autres essayent de réinstaurer, justement, en tout cas d'affronter l'ennemi et de retrouver justement cet équilibre démocratique en Europe. Est-ce que vous êtes un homme si finalement vous n'affrontez pas le danger et vous restez planqué dans votre surface de réparation ?
Courant 1914, Lord Kitchener, ministre de la guerre du Royaume-Uni, pour amplifier l'engagement militaire, autorise le regroupement de communautés entières au sein d'un même bataillon. Nombreux sont alors les joueurs de football des mêmes clubs à rejoindre les rangs de l'armée. Pourquoi cette autorisation et surtout, comment expliquer le succès qui en découle ?
Comment expliquer l'engagement des footballeurs suite à l'appel de Lord Kitchener ? C'est d'abord cette différence qu'il y a en France entre la conscription, la mobilisation générale, et le fait qu'on appelle des volontaires à aller combattre. Et donc, on a besoin de faire un appel aux volontaires. Pour faire cet appel aux volontaires, on va donc avoir un appel en fonction de communauté. Et si vous êtes dans une guerre qui nécessite finalement un certain nombre de qualités physiques, de qualités tactiques, de qualités humaines, si finalement vous êtes au début de la guerre, non pas dans une guerre encore de position, mais dans une guerre de mouvement, et que vous voulez que les hommes qui soient volontaires puissent justement disposer d'un bagage physique et de finalement d'un sens de la camaraderie suffisant pour pouvoir affronter l'épreuve du front, eh bien vous arrivez rapidement dans la culture britannique, puisqu'en France ça n'existe pas, vous arrivez rapidement au constat que ceux qui ont été éduqués par le sport, eh bien, sont éduqués à la guerre. Ça veut donc dire qu'à partir de ce moment, on va donc avoir ces sportifs qui vont donc être mis à l'honneur en tant que soldats sportifs, car capables de courir, car capables de comprendre et de vivre avec l'autre. Et donc quand Lord Kitchener lance cet appel, il ne faut pas oublier que c'est un lord, c'est un aristocrate, mais aussi quelqu'un formé dans les public schools, où dans les public schools britanniques, on a formé l'élite britannique aux valeurs du sport, à la pratique sportive, pour être les dirigeants de l'Empire britannique. Et donc, il est inclus de faire appel au sport pour éduquer la jeunesse britannique à diriger, à travailler ensemble, à performer. Et donc, finalement, la mobilisation des footballeurs est assez logique, puisque les footballeurs sont les classes populaires. C'est donc plus simple aussi dans la morale populaire d'envoyer les classes populaires au front. Les footballeurs sont ceux qui sont dans des sports d'équipe, donc on a l'habitude de la camaraderie. Les footballeurs sont ceux qui ont des qualités physiques. Et les footballeurs sont en équipe. Et finalement, quand on va devoir travailler, eh bien, on va s'apercevoir que ce regroupement d'hommes pour pouvoir justement donner un ordre, donc l'ordre du capitaine sur le terrain qui retrouvera justement à l'intérieur de la tranchée pour dire « on y va, c'est le moment », eh bien, il y a toute cette éducation sportive qui forgera véritablement des hommes capables de combattre et pas simplement d'obéir.
En fait, on assiste à une sorte de militarisation par le sport. Peut-on dire que le football sert ici d'outil de propagande pour une sorte d'embrigadement dans l'armée britannique ?
Propagande est véritablement quelque chose qui sera utilisé un petit peu plus tard, au moment où justement où il y aura des affiches qui clairement appelleront à l'engagement, puisque c'était une armée de volontaires, appelleront à l'engagement à travers les communautés sportives. Mais la militarisation du sport, en fait, c'est simplement que le sport, contrairement à la France, il est utilisé dans les institutions, c'est-à-dire pour éduquer le jeune à l'intérieur du milieu scolaire, pour éduquer finalement l'homme à l'intérieur de l'armée. Et donc, oui, en effet, il y a une utilisation militaire du sport par l'armée britannique, qui va rapidement concevoir, dès la fin du 19e, début 20e siècle, les sports, le football, mais les sports, comme un moyen de préparer le corps au combat, comme un moyen aussi de divertir les hommes pendant les périodes aussi de non-combat, et aussi comme un moyen de vivre sa culture en dehors de son territoire, puisqu'il ne faut quand même pas oublier qu'on est dans l'Empire britannique, qu'ils ont l'habitude d'envoyer des Britanniques en dehors des terres du Royaume-Uni, et qu'il faut qu'ils puissent retrouver aussi les loisirs qu'ils ont dans leur communauté d'origine, dans des territoires nouveaux. C'est-à-dire que finalement, l'utilisation du football, elle est là aussi pour se dire, tiens, vous allez avoir un divertissement qui va vous permettre de vous amuser entre vous, et pendant les temps où vous serez justement dans ce qu'on appellera les dominions, donc les colonies de l'Empire britannique. Et donc c'est aussi à travers le football que l'armée régule à la fois ses ressources humaines, forme physiquement sa ressource humaine, et donc oui, le sport est un outil à l'intérieur de l'armée britannique pour former des hommes capables d'affronter le combat.
Après cet appel de Lord Kitchener en décembre 1914, on va même assister à la création d'un bataillon un peu spécial, le 17e bataillon du régiment du Middle Essex, plus connu sous le nom de bataillon du football, composé uniquement de footballeurs, et notamment de nombreux professionnels du club de Clapton Orient notamment. Comment expliquer la création d'une telle unité ?
Le 17e bataillon du Middle Essex, c'est un instrument pour faire la promotion de la capacité à pouvoir être engagé en étant membre d'une même équipe, ou en tout cas membre d'une même région géographique, en qualité de footballeur, pour être envoyé au front. Et donc, finalement, encore une fois, d'être déraciné. Déraciné pour combien de temps ? Pas une semaine. Et on n'a pas de date de retour. On ne sait même pas, justement, si on va revenir. Donc, il faut aussi permettre l'engagement, permettre cette capacité que les gens vont avoir de se déraciner, de partir dans une nouvelle région pour mener un combat qui ne les touche pas concrètement. Il n'y a pas la guerre en Grande-Bretagne pendant la Première Guerre mondiale. Pourquoi on irait se battre pour les Français ? Il y a cette capacité quand même à se dire que dans des grandes ficelles médiatiques, on va faire du storytelling, on crée un bataillon de footballeurs pour montrer l'exemple et après espérer justement l'engagement de la communauté de footballeurs qui est assez importante avant la Première Guerre mondiale, dans des bataillons, puisque, encore une fois, il faut engager des actions pour alimenter. Parce que à la guerre, ben, y a des morts. Eh bien, il faut bien remplacer les hommes. Donc là, on a la petite histoire à l'intérieur de la grande, concrètement, l'histoire du bataillon de footballeurs. C'est pour aussi démontrer que les footballeurs sont les bons soldats dans cette guerre moderne, et pour aller aussi donner l'exemple à des Belges, à des Français, pour ne prendre que ces nations footballistiques, de faire la même chose pour aussi, quelque part, montrer la voie d'une sportivisation, d'une nécessaire sportivisation de la gent masculine, des hommes, pour pouvoir finalement gagner la guerre.
Alors, au-delà de ce bataillon, le football est au cœur de tous les bataillons et régiments de l'armée britannique. On y joue partout, tout le temps, du moins quand on peut. Pourquoi ? Et effectivement, à quel moment les soldats parviennent à trouver le temps pour jouer ?
Le football est utilisé dans l'armée britannique dans la tranchée, dans finalement ce qu'on appelle l'arrière-front, mais aussi dans les camps militaires situés à l'abri des canons, avec différentes fonctions. Dans la tranchée, on a quelques exemples, en effet, notamment avec le capitaine Neville, où on va utiliser le ballon pour encourager les hommes à sortir de la tranchée et à mener une attaque de masse très très préparée. La bataille, le 1er juillet, lors de la bataille de la Somme en 1916, où c'est une bataille censée justement aller casser les lignes allemandes, et donc il fallait vraiment une sortie massive, et donc pour provoquer cette sortie massive et finalement casser la peur des soldats, on aura utilisé le ballon, et puis donc des grands shoots dans des ballons avec certaines inscriptions sur les ballons pour pouvoir aussi envoyer à l'ennemi quelques injures. Derrière, il est utilisé à l'arrière-front parce que en fait, dans la tranchée, on est immobile. Dans la tranchée, on s'ennuie. Dans la tranchée, on vit dans la boue, dans le froid, et on a besoin aussi de se divertir. Et donc le commandement militaire, rapidement, dès le début de la guerre, verra d'un bon œil que les soldats britanniques pratiquent le football à l'arrière du front. Et donc ce football, enfin, il est pratiqué dans les camps militaires à l'abri des canons, pour pouvoir finalement retrouver une camaraderie, retrouver un plaisir de pratique de ce qu'on a connu dans notre ville d'origine, dans notre village d'origine, donc retrouver un loisir qui nous rappelle la maison, et aussi pour travailler cette communication entre les soldats, entre officiers et soldats.
Cette pratique, elle est donc voulue par les autorités militaires. Comment on s'organise côté britannique pour la permettre, cette pratique du football ?
Quand Lord Kitchener lance son appel aussi, il y a d'autres actions mises en place à l'intérieur de la Grande-Bretagne, comme à chaque fois que vous avez un camp militaire qui est construit à l'arrière du front ouest, il y aura un terrain de football à l'intérieur du camp militaire, parce que c'est bien beau de vouloir des armées de footballeurs, mais ce n'est pas de terrain de football. Et c'est ces mêmes terrains de football qui seront construits un petit peu partout en France, qui quand les Anglais seront partis, après la Première Guerre mondiale, eh bien, le terrain de football va rester, et on a des exemples de terrains de football qui resteront dans des villages français et qui permettront véritablement l'institutionnalisation des premiers clubs de football ruraux à l'arrière du front ouest. C'est finalement cette histoire-là.
Alors, si je comprends bien, cette pratique, elle permet d'unir les soldats lors de leur engagement, de les divertir, voire de les motiver parfois sur le champ de bataille.
Si on va un peu plus loin, on est aussi dans un souhait des autorités militaires d'éviter que le soldat n'ait un certain nombre de distractions qui n'est pas dans le plan, dans la morale du soldat, puisque bien entendu l'armée britannique aussi instituera, l'armée française, les bordels militaires de campagne et la prostitution de deux classes, les prostituées pour les soldats et les prostituées pour les officiers. qu'on aura aussi une fréquentation des estaminés, avec une consommation d'alcool très très importante. Donc, quand vous voulez aussi favoriser une activité qui renforce la santé, les capacités physiques, le dialogue officier-soldat, et qui va donc aussi réduire, pour ne pas dire empêcher, la consommation d'alcool, et peut-être aussi détourner des plaisirs de la chair, voilà, ça permet aussi finalement de trouver véritablement une utilité à cette pratique sportive dans toutes les lignes de la Première Guerre mondiale.
Au vu de la durée de la guerre, est-ce que la pratique du football s'organise à l'arrière-front? Est-ce qu'on a des matchs entre certains régiments, des bataillons dans des camps militaires?
Ah oui, alors dans les camps militaires, non, dans les camps militaires, on n'est même pas sur des matchs organisés. On est sur, ça va du match inter-baraque, cette petite maison en bois, donc ça va du match inter-baraque au match inter-régiment, au match inter-armée, à des ligues sportives. Là, on est dans la pleine explosion. Il y a des ligues, il y a des championnats, il y a des coupes de l'entente cordiale avec des équipes françaises civiles ou avec des équipes militaires. Il y a des rencontres internationales. Pourquoi? Parce qu'il y a des Belges, des Britanniques, des Canadiens, des Australiens, des Néo-Zélandais, puis après des Écossais d'un côté, des Gallois, des Anglais. On peut donc multiplier les matchs internationaux partout. Il y a des milliers de matchs. Pendant la Première Guerre mondiale, les habitants d'Abbeville diront d'ailleurs qu'il y a des matchs aux quatre coins de la ville pendant toute la Première Guerre mondiale.
Alors, sur le front, comment s'effectue le partage de cette passion pour le football? Comment finalement arrive-t-on à cette scène bien connue et bien réelle où les poilus et les Anglais tapent dans le ballon avec des Allemands lors de Noël 1914?
Déjà, il y avait cette stupéfaction des Français et des Allemands pendant le Noël 14, avec ce fameux match de football. Ce qu'on constate dans la littérature et donc dans les recherches, c'est que il existe la grande majorité des militaires français qui n'ont pas connaissance du football, parce qu'ils ne l'ont pas pratiqué, parce que la majorité sont des ruraux et des ouvriers, mais qu'il existe quand même une petite part de Français capables de comprendre le phénomène footballistique, parce que plutôt issus du monde urbain, de la bourgeoisie, et donc qui sont quand même ancrés, enfin qui sont quand même dans les régiments français, et qu'à partir de là, finalement, il va y avoir les premières connexions. Moi, j'ai trouvé des photos, donc, alors qui sont pas tout à fait de l'os, mais enfin en tout cas qui sont sur vraiment la partie nord du front, à peu près de la même époque, qui montrent que il y a les premières rencontres entre ces footballeurs, enfin entre ces soldats sportifs britanniques et nos poilus. Et donc, ils vont récupérer des branches d'arbres, mettre une petite corde entre les deux, ça fera les buts, et qui vont utiliser le terrain qui est à proximité. Et on n'est pas du tout contre du 11 contre 11 à 2 fois 45 minutes, on est dans ce qu'on peut.
Pour revenir sur le bataillon du football, il rejoint l'OS en 1915, participe à plusieurs batailles, mais se retrouve finalement disloqué. Qu'advient-il de ce bataillon?
La disparition du 17e bataillon est un fait de guerre. C'est-à-dire que les combats amènent un engagement et amènent son lot de blessés et aussi de morts, ce qui expliquera que dans le remplacement, eh bien, il n'y aura pas forcément un footballeur mort pour un footballeur qui arrive en remplacement. On n'est pas dans une équipe de football, on est ici à la guerre, et donc il va se diluer progressivement et aussi être réintégré au gré des mouvements militaires, puisque c'est quand même la guerre qui explique les mouvements des forces armées, qui explique aussi les plus lourdes pertes que d'autres. En effet, ceux qui sont sur certains endroits du front ont une plus forte probabilité à mourir, et donc les régiments à être recomposés, dissous ou réintégrés dans d'autres armées. Et ce qui arrivera avec le bataillon, le 17e bataillon du Middlesex, c'est que arrivant en 1918, il n'a plus son identité, et donc il sera redispatché à l'intérieur de d'autres corps armés.
Après la guerre, que reste-t-il de ce passage des Tommies et de leur passion pour le foot en France?
Il reste des terrains, il reste des ballons, parce que il faut des terrains et des ballons. Il reste une culture, parce que quand vous êtes un jeune de 11, 12, 13 ans, dans une ville de garnison, où à la base il n'y a que 20 000 habitants français, et vous vous retrouvez au contact pendant 5 années de 100 000 soldats britanniques qui jouent constamment au football, eh bien ça construit votre adolescence footballistique, et donc vous en devenez un promoteur du football, ce qui expliquera donc qu'à Abbeville, qu'à dans d'autres villes, Boulogne-sur-Mer et ainsi de suite, eh bien cette jeunesse française va être footballisée, à la fois pour regarder le spectacle du football, à la fois pour pratiquer le football, à la fois pour créer des nouveaux clubs de football, à la fois pour développer quelque part cet amateurisme marron du football, puisqu'on parle de professionnalisation qu'à partir du début des années 30. Il va rester donc aussi chez les femmes la capacité justement à pouvoir connaître le football, chez les personnes âgées à connaître le football, à ces populations rurales de connaître le développement du football après la Première Guerre mondiale, en lien direct avec le retour des soldats dans les villages, mais aussi finalement à l'utilisation des installations, comme on le disait, mais aussi des codes, des règlements qui auront été ancrés pendant ces 5 années.
Eh bien, merci Arnaud d'être revenu pour terminer sur cet épisode de l'histoire qui aura donc vu les débuts de la militarisation par le sport au XXe siècle, mais aussi la formation de ce que vous appelez dans vos travaux un creuset interculturel et sportif qui a permis une certaine acculturation à la pratique du football, notamment dans le nord de la France. Un phénomène qui explique sans aucun doute encore aujourd'hui l'importance du football dans la culture populaire du Nord-Pas-de-Calais.
Ouais, merci beaucoup d'avoir reconvoqué chez moi cette passion pour une période qui est vraiment ancrée dans notre territoire du nord de la France et qui aujourd'hui me permet de partager avec vous ce podcast et finalement ce moment où on se dit que quelque part l'histoire est toujours reconvoquée. J'en veux pour preuve cette volonté aussi, encore une fois, que les Anglais ont de nous expliquer le football, voilà, puisqu'ils ont été ils sont venus nous donner une leçon de football. Avant la Première Guerre mondiale, la France n'est pas une nation de football. Après la Première Guerre mondiale, le football est le sport roi en France.
C'est la fin de cette émission. Si vous voulez aller plus loin dans vos recherches, vous pouvez consulter les liens ajoutés à la description de ce podcast. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Terrain Miné. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix et à suivre Terrain Miné sur les différents réseaux sociaux. À bientôt.